venez d'évoquer. Peut-être que je me trompe, s'il n'y a pas un terme qui s'appelle l'entropie, qui explique justement ce désordre nécessaire à l'équilibre de notre monde. C'est quelque chose comme ça, je crois.
Oui, oui. Bon,
mais est-ce que ce n'est pas justement une justification physique? Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je sais qu'elle existe et elle suffit à me rassurer pleinement.
Oui, vous voulez dire le désordre.
Grâce à ce désordre, notre monde tient debout. Enfin, en gros, c'est ça.
Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que...
Pardon ?
Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que...
Oui, oui, mais
on aurait tendance à tout penser que c'est l'ordre qui fait tenir debout.
Mais non, il faut qu'il y ait une pointe de désordre.
Absolument.
Et comme dans un être humain, s'il n'y a pas une pointe de fantaisie, d'un petit désordre, est-ce qu'il est pleinement humain ou est-ce qu'il est un automate ? Est-ce qu'il ne faut pas être déréglé quelquefois, un peu bêtisier, un peu...
Exactement. Voilà. C'est très juste, hein. Je le reprends, si vous me permettez. Regardez, si l'homme est un automate, ben, il n'y a pas de désordre. Hein, c'est ça. Tout est réglé d'avance. La possibilité qu'il y ait du désordre, c'est-à-dire une variation par rapport à un ordre donné, eh ben, ça peut expliquer la liberté, justement. Parce que ça permet de sortir, si vous voulez, c'est comme imaginer que la vie humaine, dans le cadre déterminisme, soit écrite comme sur du papier à musique. Pas de surprise. Hein. Alors, le contraire d'entropie, c'est négantropie. C'est la négantropie parfaite, c'est l'ordre parfait. Il n'y a pas de liberté, là. La liberté, c'est toujours cette capacité, regardez les grands artistes, hein, à sortir des codes habituels, à sortir de la norme, à dévier. Ce sont des déviations créatrices. Donc, c'est vrai ce que vous dites, vous avez raison. Cette l'existence de l'entropie, c'est-à-dire à sortir de l'ordre, d'un ordre donné, et affirmation, et signe de liberté. C'est vrai. C'est très juste. Hein. Voilà, le problème, c'est que l'entropie existe au niveau physique macroscopique, hein, mais au niveau de la physique macroscopique, ce qui domine, c'est quand même... la négantropie, c'est-à-dire l'ordre. Et c'est ça d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir, on peut dénicher, enfin déterminer des lois de la physique. Parce que tout système physique atteint un certain, va au bout d'un moment donné vers l'entropie. Bon, mais là, ça va nous amener vers des questions un peu complexes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la liberté, ça suppose une capacité à dévier par rapport à des lois. Est-ce que ça vous choque quand on dit que l'homme est peut-être un automate, un animal-machine? En même temps, vous comprenez que c'est logique par rapport à...
Nous serions dans l'expérimentation animale de Pavlov, et ça c'est dégradant.
Oui, et puis surtout c'est une espèce de fatalisme, mais qui s'appuie non pas sur la religion cette fois, mais sur la science. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le destin, par exemple en religion, pour certaines religions, là ça s'appelle le déterminisme. Et c'est pareil. Vous savez ce que c'est qu'une pensée fataliste, hein ? C'est le mektoub des musulmans, c'est cette idée que tout est écrit. C'est le destin, voilà. Mais au lieu d'être un destin qui a une connotation ou une source religieuse, ce serait un destin conceptualisé par des concepts de la science. Le nom scientifique du destin, c'est le déterminisme. Le déterminisme, on ne peut pas le mettre en cause, hein, il existe. Sinon, on pourrait, il n'y aurait pas de loi de la physique, il n'y aurait pas de physique. C'est parce qu'il y a du déterminisme qu'on peut prédire que tous les 76 ans, la comète de Halley passe près de la Terre. Ou qu'on peut prédire plein de choses. Hein. En fait, c'est parce qu'il y a du déterminisme qu'il y a de la science. Sinon, la science ne pourrait rien prédire. La question, c'est de savoir s'il n'y a que du déterminisme. Alors j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi, de vous dire quel est le nom qu'on donne en philosophie à cette capacité qui, selon Descartes, permet chez l'homme à s'opposer au déterminisme. Il y a le déterminisme, la succession de causes et d'effets. L'homme, par un acte libre de la volonté, est capable de stopper le déterminisme. Ça porte le nom en philosophie de spontanéité. Spontanéité. Un acte spontané en philosophie, c'est un acte qui casse par une décision, hein, la chaîne des causes et des effets. C'est un acte magique. Si on suit Descartes, ce serait par la spontanéité la preuve de la supériorité de l'esprit sur la matière. Vous comprenez cette idée ? Ça s'appelle la spontanéité. Vous avez des philosophes qui ne croient pas en l'existence de la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils disent que même quand je crois être libre, en fait, ce que j'agis, ce que je fais, c'est le produit du déterminisme. Juste avant de vous rendre la parole, hein, je voulais vous dire comment on peut illustrer ça très simplement. Le rapport entre spontanéité et déterminisme. Je vais reprendre un exemple qui est tiré de l'œuvre de Bergson, Henri Bergson. Je vais un peu l'adapter, mais c'est l'exemple, il est là. Bon, je ne sais pas si vous prenez du café le matin, il ne faut pas être indiscret. Hein. Bon, imagine, moi, j'aime bien boire le café le matin, et je mets un sucre. Je peux très bien dire, en suivant tout ce que vient de dire, mais tiens, si je suis libre, moi, si je veux, demain, je ne mets pas de sucre, je suis libre. Donc la liberté là, elle s'expérimente dans quelque chose de très simple. Hein. Le choix que je décide de mettre un sucre ou pas dans mon café. Je suis libre. Une fois je mets un sucre, le lendemain je décide, je ne mets pas de sucre. C'est un exemple très bergsonien. Donc voilà, j'affirme ma liberté, par exemple le jour où je ne mets pas de sucre. Et puis j'en mets un, je ne mets pas. Mais si on réfléchit deux secondes, je m'aperçois que lorsque je bois du café sans sucre, j'arrive pas à le boire. J'aime pas. J'arrive même pas à boire une goutte, une gorgée, quoi. En fait, je m'aperçois que je suis pas vraiment libre. Je pensais être libre en pouvant boire du café sans sucre. Mais j'arrive pas à boire du café sans sucre. Donc, je suis déterminé. Alors, vous allez me dire, mais malgré tout, même si on n'aime pas boire du café sans sucre, on peut faire un effort. On peut s'habituer, peut-être. Allez, je fais un effort. Alors, c'est un troisième niveau. Je fais l'effort. Même si j'aime pas, allez, je vais quand même le boire. Et là, je me dis, ben voilà, ben, je suis vraiment libre. Je me suis forcé, là. Je suis vraiment libre. Et en fait, il y a un quatrième niveau. Si je me suis forcé, c'était pourquoi? C'était pour me prouver que j'étais libre. Et là, ça rejoint quoi? Ça rejoint, vous vous rappelez, l'Afcadio, la cave du Vatican. C'est comme si la question de la liberté était tout le temps en dialectique constante avec la question du déterminisme. Je vous signale que, et ça aussi je voulais le dire, mais c'est tellement vaste, hein, que lorsqu'on a demandé à Michel Foucault, grand philosophe français, et à Jacques Lacan, grand psychanalyste, est-ce que d'après vous l'homme est libre? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Parce que eux, c'était les tenants des sciences humaines, hein, en plus en plein structuralisme. Jacques Lacan, il a pas répondu, c'était une interview, il s'est mis à rire. Pour un psychanalyste, la liberté n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. Et Michel Foucault, dans un livre très célèbre qui s'appelle « Les mots et les choses », une des dernières phrases de son livre, je la cite de mémoire, hein, il écrit « Tous ceux qui affirment que l'homme est libre, mais à tous ces gens-là, on ne peut leur imposer qu'un rire philosophique. » En fait, c'est la même chose que Lacan, mais dit avec d'autres mots. Alors attention, parce que là on était en plein structuralisme, vous savez que le structuralisme, c'est un courant de pensée qui a affirmé que nous sommes tous agis par des signifiants. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre comportement qu'on croit libre, en fait, on ne fait que qu'être plus qu'influencé d'ailleurs, hein, déterminé par des fantasmes, par des représentations inconscientes qui tournent souvent autour d'un mot. Par exemple, chez Lacan, le signifiant le plus important qui nous agit, c'est le nom du père. Alors comment vous écrivez le nom là? N-O-M ou N-O-N? Les deux. Et c'est cette duplicité d'ailleurs qui est à l'origine de beaucoup de comportements névrotiques. Donc voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est que la question de la liberté, elle rencontre tout le temps celle du déterminisme. Et inversement. Vous voyez, j'ai encore continué. Je vous laisse la parole maintenant. Allez-y.
Est-ce que la spontanéité et le hasard sont la même chose?
Excellente question. On va dire que il y a deux types de hasard en philosophie. Hein. Il y a ce qu'on appelle le hasard objectif. Mais il y a aussi un hasard lié au comportement humain. En fait, c'est toute la dialectique du hasard et de la coïncidence. Le hasard objectif ne fait pas intervenir la notion de spontanéité. Hein. Celui qui a le mieux défini la notion de hasard objectif, je suis obligé d'en parler pour que vous compreniez après, c'est un philosophe français qui s'appelait Augustin Cournot. Ses textes sont lumineux. Hein. Il dit ce qu'on appelle le hasard objectif. En fait, ça ne remet pas en cause le déterminisme, ça remet en cause des rencontres entre des chaînes causales. Prenez l'exemple Attendez, je trouve un exemple qui puisse vous parler parce que. Un événement qui se produit par hasard. Alors imaginez par exemple que vous ayez une personne A décide de rentrer chez elle après son travail, ce qui arrive fréquemment. Elle va faire toute une série d'actions qui sont inscrites dans le déterminisme. Lever le pied pour prendre son bus ou monter dans sa voiture, prendre la direction pour aller chez elle. Tout ça, au niveau physique, c'est un ensemble d'actions qui s'inscrivent dans une chaîne causale. C'est une chaîne causale. Et il y a une autre personne qui, elle, décide d'aller chez le dentiste et qui doit passer par une rue qui va croiser la trajectoire de la personne A. La personne qui va chez le dentiste, elle aussi, elle s'inscrit dans une chaîne de causalité. Toutes les actions qu'elle fait au niveau physique pour aller chez le dentiste. On a deux chaînes causales indépendantes. La personne A qui rentre chez elle, la personne B qui va chez le dentiste. La seule chose qui n'était pas causale, c'est le point de jonction entre les deux chaînes. Et là, on dit, tiens, j'ai rencontré par hasard un ami et chez le dentiste. Ça, c'est pas déterminé. Et c'est ça qu'on appelle le hasard. Cournot appelle ça la conjonction de deux chaînes causales indépendantes. Autrement dit, ce qu'on appelle le hasard, ça remet pas en cause le déterminisme. Ça remet en cause, c'est simplement la conjonction de deux chaînes causales indépendantes. Mais ça, il n'y a pas de spontanéité là. Ce qu'on appelle en philosophie spontanéité, c'est une intention. C'est-à-dire, j'ai l'intention de m'opposer à un processus qui suit une certaine causalité. Je vous l'ai dit, tout ce que l'homme peut faire et qui s'oppose à ses impulsions, au dictat du corps, c'est la spontanéité. Si par exemple une pulsion me donne envie de boire, de manger, de faire des tas de choses qui sont liées aux pulsions, et si j'arrive à m'y opposer, c'est ça la spontanéité. C'est être capable de briser le déterminisme, c'est-à-dire de dire non à quelque chose qui s'impose à moi. Et vous savez que les gens qui n'y arrivent pas, on les appelle des impulsifs, parce qu'ils n'arrivent pas à s'opposer à un dictat, à une contrainte corporelle. L'homme est capable de le faire. C'est ça la spontanéité, en fait. Le hasard, c'est autre chose. Enfin, j'étais un peu loin. Est-ce que vous avez des remarques à faire, alors, globalement? Est-ce que vous pensiez que c'était ça dont on allait parler? Vous aviez sur la liberté? Est-ce que c'est... Vous avez vu que c'est quand même complexe, hein? Oui.
Il me semble que la liberté, c'est une figure emblématique, sans doute, de la philosophie, dans la mesure où elle propose des modèles très, j'ai envie de dire, caricaturaux, alors qu'en fait, la liberté n'existe pas s'il n'y a pas de contrainte.
Absolument.
Et on ne peut même pas concevoir la liberté si ce n'est pas dans un cadre contraignant.
Ouais.
Et il me semble que ces interactions sont extrêmement bien montrées et proposées à notre réflexion dans les films de Lelouch, ou tous ces films chorales, je pense à tout ça pour ça. Et un très joli petit livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc je vous propose, qui s'appelle La Tresse.
Ah oui.
Et qui expose une chaîne de comment sommes-nous contraints au déterminisme. Alors, nous, dans notre société, c'est facile d'exercer notre liberté.
Oui.
Toute chose relative. Et il y a des sociétés très contraignantes, notamment la société indienne. Avec un système de casse.
Ah oui,
voilà, je propose ce petit livre à la lecture.
Eh bien, merci pour votre intervention. Moi, je vais revenir sur ce que vous avez dit.
La presse.
C'est intéressant. On pourra regarder sur Internet. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Il n'y a pas de liberté sans contrainte. C'est très juste. Mais j'espère que tout le monde a bien perçu que cette phrase que vous avez rappelée, elle est au cœur même de la conception de la liberté d'autonomie. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? C'est se proposer, se fixer à soi-même une loi, c'est-à-dire une contrainte. La personne qui dit « moi, je mange plus de gâteau parce que je suis diabétique », elle se propose une loi qui est une contrainte à la base, parce qu'elle aimerait manger des gâteaux. Mais ce que disent les philosophes, comme Kant par exemple, c'est qu'à partir du moment où on adopte cette contrainte, parce qu'après tout on ne pourrait pas l'adopter, on pourrait continuer à manger des gâteaux, ce qui était une contrainte au départ, ça n'en devient plus une, puisque par une délibération de la volonté, je fais de cette contrainte ma loi. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui devient une décision que je prends. Alors, contrainte au départ, parce qu'on est mis là en gélégato, mais une fois que c'est intériorisé, ça devient une loi. Et c'est pour ça que pour tous les philosophes, il n'y a pas de liberté sans loi. Mais la loi, il faut l'entendre comme une contrainte intériorisée, donc dépassée. Tant qu'elle n'est pas intériorisée, tant que ça reste une contrainte, on n'est pas libre. On agit par contrainte. Quand on intériorise, c'est là où on devient libre. Autrement dit, celui qui, par exemple, s'interdit le jeu, l'alcool, les gâteaux sucrés, le chocolat, tout ce que vous voulez, tant qu'il le fait, et tant qu'il pense que c'est une contrainte de se priver, il n'est pas libre. Quand il pense les choses comme une loi qu'il s'impose à lui-même, librement, la contrainte disparaît par un principe, hein, et ça devient une liberté. Alors oui, je vous en prie.
Moi, je pensais à la prise de risque.
Oui.
Parce que je veux dire la risque de Abbe du Fromentel qui a bien vraiment exercé ce risque-là puisqu'elle est morte en sauvant des enfants,
oui,
de la noyade. Et donc la prise de risque, il y a quand même une liberté là qui est un peu comme dans l'acte gratuit, me semble-t-il.
C'est bien parce que vous anticipez ce dont je voulais parler. Je vous remercie alors. Parce qu'en fait, la prise de risque dont vous parlez, c'est tout à fait lié à cet aspect que je voulais évoquer dans mon intervention, mais que j'ai, pas eu le temps. C'est la peur d'être libre. Kant nous dit dans un texte célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il nous dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de la liberté. Et ils préfèrent confier leur existence, les choix de leur existence, à des directeurs de conscience. Alors ce qu'il appelle directeur de conscience, ça ressemble un peu au personnage, vous connaissez, le Tartuffe de Molière. Ils dirigent, on confie, aujourd'hui on dirait, il y a des gens, ceux qui vont dans les sectes, ils confient la direction de leur vie à des gourous. Une fois dans un café philo, j'avais commis un impair. J'avais dit, là aujourd'hui, c'est les coachs de vie. J'avais raconté déjà, non ? Et dans la salle, il y avait plusieurs personnes. Nous, on est des coachs de vie, monsieur. Ah bon ? Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un coach de vie, mais moi, j'aime pas cette expression. On n'a pas à être coaché pour sa vie, enfin. Peut-être je me trompe, peut-être, hein, je sais pas. Alors, sachez que, voilà, quand on nous dit il y a des gens qui ont peur de la liberté, et ces gens-là, ont donné lieu à une catégorie nouvelle de sociologie, puisque cette idée de peur d'être libre, on la retrouve au XXe siècle, à travers la thématique d'adolescents qui finissent par devenir de jeunes adultes, et qui ont peur de quitter le milieu familial. Et en sociologie, on les appelle maintenant des tanguis. Sachez que les sociologues, et les psychologues aussi, hein, se sont évertués à trouver des dénominations. On parle de post-adolescence. On a parlé de syndrome de Peter Pan. Vous connaissez ces expressions ? Une catégorie nouvelle, des gens qui, parfois même, assez tard, même très tard, hein, comme s'ils avaient peur de leur liberté. Eh bien, Kant, lui, ces personnes-là, il les appelle des mineurs. Alors, pas des mineurs de fond, pas des mineurs au sens juridique non plus. Hein. Un mineur, c'est quelqu'un qui a peur de s'autonomiser, d'être libre. Mais de quoi est-ce qu'il a peur au fond, dit Kant ? Ça, c'est très simple. Il a peur de devenir responsable. C'est-à-dire de répondre de ses actes. Il préfère, encore une fois, s'il fait des bêtises, qu'on prenne la responsabilité des parents. Il les appelle des mineurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a des gens qui profitent des mineurs. Et ces gens-là, lui, il les appelle des tuteurs. Alors, ici, tuteur, ça n'a pas non plus un sens juridique, hein. Le tuteur, c'est celui qui va profiter de la peur des mineurs, en quelque sorte, pour faire la mainmise sur la vie du mineur qu'il va en quelque sorte diriger. Il y a des gens comme ça, hein. Et toute la dialectique des mineurs et des tuteurs, c'est la dialectique de la peur d'être libre. Et Kant conclut ce texte très célèbre en disant que le mineur, comme un oiseau qui tombe du nid, mais une fois qu'il est tombé du nid, il va commencer à comprendre qu'être libre, c'est pas si dangereux, quoi. Et puis il va finir par voler de ses propres ailes. Et le texte est célèbre parce que il montre que la liberté qui est tant célébrée, eh bien, ça peut faire peur. En fait, ce qui fait peur, c'est la responsabilité. Être enfin capable de devoir répondre de ses actes. Ça fait peur. Et Kant conclut en disant, voilà, la philosophie des Lumières, elle engage tous les hommes à prendre leur liberté d'abord en apprenant à penser par soi-même. Donc lui, il rattache ça à un programme philosophique. Ne pas tout le temps penser par les autres, par leurs préjugés. Ne pas tout le temps penser en empruntant leurs stéréotypes. Être capable d'une pensée libre, même si elle doit nous mettre en porte-à-faux avec la pensée dominante. Sortir de la masse. Bon, ce type de texte ont eu des répercussions immenses en philosophie. Hein. Et encore une fois, par rapport au thème de la liberté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous voulez que je revienne pas? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un thème difficile ou pas, finalement? Il est quotidien. Mais sur le déterminisme par rapport au... Oui. Absolument. Et puis, par étage. Hein. Oui. Et encore, je vous ai épargné. J'ai pas parlé de la liberté au niveau psychologique, en fait. Hein. J'ai pas parlé de psychologie, de psychanalyse. J'aurais pu faire ça une heure, hein, déjà. Oui. Eh bien, c'est le risque de devoir répondre de ses actes, justement. D'être responsable. Quand on sait que si on fait des bêtises, on sera pas puni. Il n'y a pas de risque. Hein. Vous savez, les parents, c'est quand un enfant fait une bêtise, c'est les parents. Même les paroles, parfois, des enfants, on dit, c'est pas eux qui parlent. Quand des enfants disent des choses horribles, ils répètent la pensée des parents. Même leurs paroles, il n'y a pas de risque, là. Le mineur ne prend pas de risque. Il n'est pas autonome, il n'est pas libre, parce qu'il ne veut pas répondre de ses actes. Il veut qu'on le traite comme un enfant, en fait. Hein. Héroïque.
Héroïque, elle a pris le risque de sauter pour sauver.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est ça. C'est une prise de risque.
Ah oui.
Alors il y a le risque calculé en fonction.
Oui, bien sûr. Voilà. Mais vous ne trouvez pas, je pose la question, que notre société, je reviens à une analyse tocquevillienne, quoi, elle produit des gens qui ne sont pas autonomes. Quoi.
Elle surprotège. Les assurances, elle assure.
Absolument.
Il y a un certain nombre de... Il y a un courant, je ne sais pas comment on l'appellerait, psycho-sociologique, etc., qui dit qu'en fait, c'est une dérive. C'est d'avoir poussé l'humanisme, de penser par soi-même, donc de s'auto-écouter. Je vais faire une caricature. Hein, mais donc, de se regarder le nombril, d'avoir peur d'avoir mal, que nous, alors particulièrement nos générations, en tout cas la mienne, hein, vis-à-vis de nos enfants, on les a surprotégés, ça va faire un raccourci, et que du coup ils sont effectivement terrorisés par la prise de risque, par le fait de souffrir trop.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que vous dites que c'est une dérive en fait de l'humanisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir à peut-être quelque chose de plus équilibré, d'avoir mal compris ou trop utilisé l'humanisme.
Ouais. On a institutionnalisé le principe de précaution.
C'est la même chose que l'humanisme.
Mais il y a ces nouvelles générations, justement, là, les millennials, là, qui sont à la recherche des millennials, comme on les appelle, la génération Y, qui justement cherchent du sens. Ils sont à la recherche de sens.
Oui, mais l'idée, c'est qu'avoir voulu trop trouver du sens à tout, on n'accepte plus rien de règles extérieures à soi, et donc de refuser toute, effectivement, contrainte extérieure au nom d'une liberté,
oui,
mais qu'il est très angoissant d'exercer.
Oui, c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est une dérive de l'humanisme. Et pendant très longtemps, moi, quand je faisais cours sur l'humanisme et les Lumières, hein, comme beaucoup de mes collègues, je disais, penser par soi-même. Mais c'est une bêtise sans nom, quoi. Déjà, on ne pense jamais par soi-même. Parce que quand on pense avec des mots, déjà, qui nous mettent en dialogue avec des... Tous les mots sont chargés d'histoire, quoi. Hein. N'importe quel concept qu'on utilise, par exemple, en philosophie, il est saturé d'histoire. Ce sont des concepts qui ont été forgés par des philosophes. En fait, on pense toujours par rapport à d'autres. Et même quand on ne le sait pas, quand on emploie certains mots, on pense avec Aristote ou avec Platon ou avec d'autres. Penser par soi-même, ça ne veut rien dire.
Oui, mais enfin, on se pose des questions par rapport à d'autres.
C'est vrai, mais la pensée, elle est issue d'une histoire collaborative. Alors après, si on veut dire penser par soi-même, c'est penser sans répéter ce qu'a dit Aristote, d'accord. Mais voilà, l'idée que, en plus, je vous dis ce que je pense après. Penser qu'il suffit de penser par soi-même pour être dans le vrai, quoi. On peut très bien penser par soi-même et dire des bêtises aussi.
On a le droit quand même.
Ah oui.
Heureusement qu'ils osent vous dire des bêtises parce qu'ils ne pourraient pas s'exprimer devant vous. Ils n'osaient pas.
C'est vrai. Mais souvent, ils pensent qu'ils pensent par eux-mêmes. Alors qu'ils expriment des... Mais c'est vrai, vous avez raison. Parfois, on pense penser par soi-même, alors qu'en fait, on est toujours... L'homme est un être social. Donc le rapport à autrui, il est constant. On croit penser par soi-même et on fait que véhiculer des préjugés qu'on a entendus et on ne s'en souvient pas, il y a des lieux communs. Je pense par moi-même, en fait, je fais que répéter ce que j'ai vu à la télé ou ce qu'on...
On peut penser par comparaison aussi.
Oui. Par analogie, vous voulez dire ?
Oui, se servir de la pensée des autres.
Mais... Voilà, ah oui, complètement. Donc c'est bien de penser par soi-même, mais faire de cet impératif la suprême libération de l'homme, c'est faux, tout simplement. Hein. Et puis surtout, ce type d'idéologie a amené à mépriser toutes les traditions avant. Il y a beaucoup de traditions philosophiques, littéraires, on les a jetées au bûcher. Voilà, il fallait, parce qu'on pensait que à l'époque des Lumières, il fallait pas citer un philosophe grec, quoi. Non, pense par toi-même. Les cafés philo, ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Les premiers cafés philo étaient tenus par des gens qui voulaient remettre en question l'enseignement traditionnel de la philosophie. Je sais pas si vous le savez. Il fallait surtout pas faire une référence. Ah non, mais pensez par vous-même. Pourquoi vous parlez de Kant, là? Après, ça a évolué un petit peu. Mais c'est pas parce qu'on cite un philosophe qu'on pense pas par soi-même. Les meilleures pensées autonomes, elles peuvent s'appuyer sur des références comme des points d'ancrage. La citation d'un philosophe, c'est une balise. On ne va pas reprocher à un physicien de citer la loi de Newton ou la loi de Coulomb. Et ben là, c'est pareil en philosophie. C'est pas parce qu'on cite Kant qu'on va répéter sa pensée, mais on s'appuie sur des concepts qu'il a forgés et que c'est nous qui choisissons de nous appuyer là-dessus. Donc c'est voilà. Enfin bon. Autrement dit, la liberté de penser, c'est pas penser par soi-même. Enfin, c'est pas au sens où on l'entend. Une pensée libre, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est tout un jeu subtil avec les philosophes de la tradition, avec l'histoire de la philosophie. C'est pas faire table rase du passé, quoi. Et plus citer ce philosophe, c'est pas ça. Voilà, je me porte un peu, excusez-moi. Alors, oui.
Faire table rase du passé, oui. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour qu'on revienne sur cette expression que vous avez d'ailleurs utilisée quand vous avez parlé du destin? Bon, le destin à la manière des Grecs. Bon, enfin, depuis, ne serait-ce que depuis le christianisme, bon, ça a disparu des expressions. On ne parle plus comme ça. On ne dit plus. Si plutôt on le dit encore, alors qu'on ne devrait plus le dire. C'était écrit. On entend encore des gens dire c'est son destin en parlant d'une mort terrible ou d'une mort précoce, mais on ne peut pas plus penser comme ça. On a dépassé cette époque du lourd destin, des attrides, de tout ce que vous voudrez.
Alors, ça dépend chez qui, hein.
Pardon ?
Ça dépend dans quelle tradition on se place.
Oui, si on admet que le christianisme, enfin, c'est ce qu'on est autorisé à penser, a débarrassé l'homme de son destin et il l'a rendu libre, enfin, lui dit qu'il était un homme libre, en Dieu et en esprit, justement. Bon, voilà. Donc, le destin lourd, la chape de plomb, Antigone et tout ce que vous voudrez, ne devrait plus peser, sinon, pour le plaisir de voir du théâtre, d'aller au théâtre, c'est tout.
Oui, mais non.
Oui, le fameux Mektoub, hein. Mais même pas. Enfin, moi, je trouve que la notion du destin, elle a pris d'autres formes d'expression. La croyance au destin, elle s'exprime différemment, quoi. Oui, je vous en prie.
Vous parlez des contraintes physiques, biologiques, de tout ce que vous avez évoqué déjà.
Alors oui, même sans parler du déterminisme. Hein. Là, une notion plus, plus religieuse même. Hein. Enfin, moi, ce que j'entends, ce que je lis, la notion du destin, elle est souvent présente aussi. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui considèrent que ce qui leur arrive, c'était leur destinée. La chance, bonheur, ça veut dire bonne chance au départ, vous savez. La chance, c'est le nom du destin, la chance. Hein. Comment, pardon ? C'est souvent des superstitions.
Ça dépend, parce que si on pense qu'il y a un être suprême et donc un Dieu omniscient,
oui.
Justement, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre parce qu'il sait tout de votre vie de toute façon.
Sauf si on.
Votre vie est prédestinée.
Oui.
Alors, ou bien on croit au libre arbitre et voilà. Il y a un conflit entre le libre arbitre et l'idée qu'il y a un Dieu omniscient qui, forcément, d'avance quel sera votre destin.
Il peut le savoir, ça.
Alors, allez-y.
Connaître sans appuyer, sans être le maître du feu.
Il connaît forcément la femme.
Ah oui, mais connaître. Enfin, quand, vis-à-vis de nos enfants, nous présentons pas mal de choses, et nous pouvons les laisser libres d'agir, prendre leur risque.
C'est tout le débat.
Oui, c'est tout le débat. Ah oui, alors c'est ça.
Et la
là aussi, il y a toute une. Voilà. Je tenais à le dire simplement pour les certains grands penseurs, comme Leibniz par exemple. Leibniz dit qu'il n'est pas incompatible de penser la liberté humaine, le libre arbitre, et l'existence d'un Dieu amour, hein, lui. Et il dit que pour lui en tout cas, hein, et il rejoint comme ça une idée qu'on retrouve dans les grandes figures de la foi. La merveille des merveilles, c'est que Dieu, ce Dieu amour, a fait l'homme libre. Alors comment penser ensemble l'omniscience divine, hein, c'est tout, et la liberté humaine.
Pascal dit quelque chose d'assez amusant. Il dit qu'il faut choisir entre le fait de ne pas croire ou de croire davantage et le fait de croire au lieu davantage bénéficiaire.
C'est le pari, hein, frère, le pari. Bon, en tous les cas, pour les théologiens, faut arriver à penser ensemble. Après, l'omniscience divine, la liberté humaine, mais l'homme, pour les croyants, hein, Dieu a fait l'homme libre parce que un Dieu amour ne pouvait pas faire un homme automaté. En ce sens, c'est en ce sens que l'homme est à l'image de Dieu pour les croyants, par cette liberté en particulier, par le libre arbitre. Et tous ceux qui ne sont pas en mesure d'user de leur libre arbitre, tous ceux qui sont enchaînés aux impulsions du corps et aux désirs, ben, ils n'ont pas atteint ce niveau-là, le niveau de la liberté. La liberté, en fait, c'est ce qu'il y a de plus divin en l'homme. Et ça rejoint l'idée que l'âme, c'est ce qu'il y a de plus divin en l'homme. On ne sort pas de l'idée que la liberté renvoie à un ordre qui est spirituel, qui n'est pas matériel, justement. La matière, c'est ce que fait la matière, c'est l'expérience de la contrainte dans la vie humaine. Et la liberté, c'est l'expérience spirituelle que l'homme peut faire si on suit ces textes. Bon, il y a autre chose que je voulais vous dire d'importante par rapport à ça, parce que vous soulevez de questions vraiment intéressantes. Hein. Là, je m'aperçois que j'aurais pu faire 3 séances. Hein, sur... Oui, je voulais quand même, parce que j'ai vraiment escamoté. Hein. Je voulais revenir sur la dimension psychologique aussi du problème. Les sciences humaines, mais même les sciences exactes aussi, hein, en un siècle, ont accumulé les études sur les déterminismes qui pèsent sur nous. Déterminismes sociaux, l'influence de la société sur notre comportement. C'est toute la sociologie, en tout cas à ses origines. Hein. Déterminisme psychologique, l'inconscient. On oublie aussi les déterminismes génétiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu quelques années, enfin, sous un ancien président de la République, dont le prénom est Nicolas, il avait accordé un entretien à Philosophie Magazine. Vous savez, il avait dit, mais il faudrait, grâce à la génétique, on détecte dès l'école primaire, dès 3 ans, les enfants qui ont le gène du criminel, le gène du violeur. Vous vous rappelez pas de ça? Bon, vous savez, donc autrement dit, là, il était dans un déterminisme génétique. cette interview et ces propos avaient causé un légitime tollé, hein, vous rappelez. Je crois même qu'il s'est excusé après d'avoir. Bon, pourquoi je prends cet exemple? Parce que même s'il n'y a pas, on le sait, hein, de gêne de l'homosexualité, du criminel, on a quand même une constitution génétique. Et ça aussi, est-ce que il y a beaucoup de textes, hein, depuis grâce aux avancées de la génétique, qui remettent en question une vision trop naïve de la liberté. Mais je vous parle de génétique parce que ça s'est rajouté aux déterminismes psychosociaux que les sciences humaines ont mis en avant, quoi. Alors comment est-ce que l'homme arrive à s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut penser la liberté humaine face à tous les déterminismes dont on a accumulé, on les a empilés, quoi, sur l'homme. On est déterminé par notre culture, par la langue détermine notre vision du monde, notre psychologie, notre enfance, donc les gènes, l'éducation, absolument, notre corps, les stéréotypes. Est-ce que la liberté, est-ce que ça a encore un sens de parler de liberté face à tous ces déterminismes qui pèsent sur nous? Parce que franchement, est-ce que ça réduit pas la liberté à choisir entre un sucre et pas de sucre, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui.
C'est un petit peu comme un prisonnier qui n'est pas libre, mais qui est libre, oui, à l'intérieur de sa cellule.
Autrement dit, la capacité à rejeter les influences, c'est ça?
Oui, mais à différentes formes de sphères. La sphère du prisonnier, c'est la liberté au ras du plancher, quoi. Mais il est libre à l'intérieur de sa cellule, mais en fait, il n'est pas libre.
Comme Nelson Mandela, par exemple.
Oui.
Nelson Mandela, par exemple.
Oui.
Tu vois, emprisonné, mais capable de.
Mais si on regarde dans les sphères au-dessus, c'est sûr que la liberté, j'en prends un coup.
Donc on reviendra à la volonté de Kant, tu vois.
Oui, mais ce serait plus problématique parce que Kant, lui, il s'intéresse pas aux déterminismes psychosociaux. Et encore moins génétique, il connaissait pas la génétique. Lui, il en reste à un niveau très élevé d'abstraction, pardon. Mais si on essaye d'être plus concret, aujourd'hui, est-ce qu'une personne est capable de remettre en question les déterminismes sociaux, par exemple, les déterminismes de classe sociale, qui vont conditionner sa conduite, ses goûts? Bourdieu a beaucoup écrit là-dessus. Vous connaissez le texte La Distinction de Bourdieu? Il dit que chaque classe sociale est déterminée dans ses goûts par son niveau social, ses goûts alimentaires, ses goûts de vêtements, ses goûts de sport. Est-ce qu'on peut casser les déterminismes sociaux? Ou bien les prolétaires auront tel ou tel goût parce qu'ils ont été déterminés, les personnes qui sont de niveau très élevé socialement, les bourgeois, enfin, vous voyez, c'est ça la question. Alors là, vous me faites plaisir. Mais je ne sais pas si c'est aussi simple. Vous pensez que ça suffit?
Alors, il y a 25 ans, il y a un professeur là qui s'appelle Bernard Lamire, qui a étudié ça dans le cadre de l'éducation, qui a dit qu'il fallait développer une schizophrénie heureuse.
Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire être capable de se couper. Hein,
au plus possible son déterminisme selon l'endroit où on est, donc la culture de la maison, la culture de la famille, etc. Et puis changer de milieu et être capable de se rendre disponible pour l'autre milieu, en l'occurrence c'était l'école, de manière à pouvoir intégrer les savoirs de l'autre milieu.
Oui. Ça, c'est un groupe de trahison par rapport au milieu.
On trahit son milieu, par exemple on est d'une classe sociale favorisée, et on va quand même préférer le foot et le rugby et non pas le golf, c'est ça? Parce que pour Bourdieu, si on est très élevé, il faut qu'on joue au golf, quoi. Non, je comprends ce que vous dites. Moi, je vais vous dire par rapport à l'école, hein, et c'est pas du tout, au contraire, c'est pas désobligeant vis-à-vis de l'institution scolaire, hein. Tous les sociologues, et moi je le constate tous les jours, voient que les stéréotypes et les déterminismes jouent quand même beaucoup. Je prends un exemple, hein. En L, vous avez pratiquement que des filles, très peu de garçons. Ça, c'est un déterminisme. C'est un déterminisme. En S, vous avez plus de garçons que de filles. Après, au niveau de l'origine sociale, bon, je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais on voit que les déterminismes, ils pèsent sur l'école aussi. Hein. Dans les filières, dans le choix des filières, comme si le public scolaire avait intériorisé, et les parents aussi, hein, les stéréotypes, quoi. Une fille, ça fait pas des écoles d'ingénieurs. Un garçon, ça fait pas lettres. Ou alors, oui, c'est ça. C'est très difficile de s'opposer. Ça peut, hein. Et c'est très difficile de s'opposer au déterminisme. Moi, je trouve que les analyses de Bourdieu, bon, je les ai, elles datent un peu, mais elles sont quand même un peu caricaturales, je trouve. Il écrit par exemple que les gens de classe défavorisée, ils ont un rapport à la nourriture roboratif. C'est normal, ils vont à la mine, ils vont à l'usine, donc ils mangent, ils aiment les pâtes et les frites. Hein. Est-ce qu'on peut être d'un milieu favorisé et aimer les pâtes et les frites? Possible ou pas? Je pense que oui, quand même.
Je ne mange pas parce que c'est pas bon. Et
on aime ce qu'on peut s'offrir aussi.
Voilà. Je sais que les sociologues aujourd'hui, on trouve que les analyses de Bourdieu qui datent maintenant, elles sont un peu trop tranchées. Hein. Si on est une classe supérieure, on ne peut pas aimer le foot, quoi. Les sports de masse qui noient l'individualité. On peut aimer le foot et appartenir à une classe très favorisée. En même temps, les analyses de Bourdieu, elles ont permis comme ça de poser le problème. Est-ce qu'on peut échapper ou non aux déterminismes sociaux? Vous savez ce que répondait Bourdieu à cette question, Pierre Bourdieu? Il disait, ben moi je suis un exemple que oui. Puisque vous savez, il était né à Pau, il venait d'un milieu de paysans très défavorisé. Il dit, regardez, je suis devenu professeur d'université. Il prenait son propre exemple pour aller contre sa théorie des déterminismes. C'est fort quand même. Qui confirme, c'est vrai.
Déterminé et libre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, les deux sont pas intriqués et
Ben ils sont, ah si, ils sont intriqués. Mais la question c'est de savoir si les déterminismes ne pèsent pas plus que sur les capacités à sortir des conduites que ces déterminismes nous font avoir. C'est ça. Oui.
On revient à la question de volonté, parce que les déterminismes sociaux, culturels, etc., on peut s'en sortir, on peut s'en échapper. Mais il faut beaucoup de détermination, de volonté, d'autres qualités aussi.
Ouais. C'est-à-dire avoir parfois un esprit rebelle, en fait. Hein.
Oui.
Est-ce que l'être libre, c'est pas l'être rebelle? Oui. La liberté comme rébellion.
Sartre disait, je n'ai jamais été aussi libre que souvent.
Voilà.
Et je trouve ça magnifique.
J'ai complètement escamoté la référence à Sartre, je m'en excuse, mais il disait ça. Nous sommes liberté avant tout, je dis. Qui veut intervenir encore? Alors, je vous en prie.
On peut dire que ce qui fait notre humanité, c'est une part irréductible de notre liberté face au déterminisme.
Alors là, je pense que cette part-là d'irréductible rébellion, finalement, hein, c'est lorsque l'homme est capable de se révolter. C'est là où il affirme sa liberté. Alors, vous savez quoi? Je vais devoir arrêter la séance. C'est pas que je suis pas bien. Je trouve que on a. Alors, je vous remercie vraiment encore. Hein. Je suis très touché. Hein. Je vais vous dire que pour l'an prochain, donc je reprendrai sur le thème du visage. Vous avez tout l'été pour y penser. Hein, le thème du visage. Je vous engage à consulter le site internet parce que j'aimerais en amont de cette reprise qu'on puisse échanger avec ceux qui veulent déjà hein, sur ce à quoi fait penser le texte en fait, ce thème. Hein. Qu'on puisse avoir une interactivité en dehors de la séance. Un peu, quoi. Et si vous avez le temps, bien sûr. Du site internet de l'UTL. Enfin, c'est le blog, là c'est le blog. Je sais, parce que je connais pas très bien. C'est là où on a publié votre texte.
Mon texte, c'est le blog.
Ah, ben alors c'est ça, alors c'est ça.
Mais vous publiez sur le blog aussi.
Oui, sur le blog.
Ah bon.
Voilà, donc c'est ça. Enfin, en tout cas, un endroit où on peut échanger, quoi. Voilà.